Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Bertille Bourdon, mais aussi Hélène Lefrançois, Margot Le Ridon, Rosalie Sucre, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Marie-Claire Oumabadi. Nouvelle série cette semaine consacrée aux nouveaux défis liés à l'alimentation. Demain, nous parlerons des paysans, évidemment en première ligne dans cette crise. Mercredi, nous parlerons du phénomène du manger local. Jeudi, nous parlerons des régimes alimentaires de demain. Mais pour commencer, place aux politiques internationales mises en place pour lutter contre la malnutrition, éradiquer la faim. Mission impossible ?
Nous avons perdu notre cheptel à cause d'une longue période de sécheresse. J'avais 53 bêtes, j'en ai perdu 43, il ne m'en reste plus que 10.
Depuis la dernière fois qu'on a reçu de l'argent, on a fait face à de graves pénuries alimentaires et on ne mange qu'une fois le soir et des fruits sauvages toute la journée. On a réduit nos portions de nourriture afin qu'il y en ait assez pour tout le monde.
2 milliards de personnes n'ont pas accès à des aliments sains et en quantité suffisante. Il y a entre 7 et 8 milliards de personnes dans le monde et un quart à 30% de ces personnes ne sont pas assurées d'avoir assez d'argent pour se nourrir et pour nourrir leur famille.
Nous sommes ici en train de faire une journée de lutte, de protestation, pour que le gouvernement national réponde à la crise sociale que nous vivons dans les quartiers. Nous voulons un renforcement urgent pour les soupes populaires et les cantines qui se sont largement développées dans la zone métropolitaine et dans toute la province de Buenos Aires.
Depuis l'Éthiopie à l'Argentine, où la situation économique a poussé le Congrès à déclarer l'état d'urgence alimentaire en septembre dernier. Tous les continents sont touchés par l'insécurité alimentaire, comme l'évoquait, on l'entendait à l'instant, l'ancien directeur de la FAO, José Graziano da Silva. Alors que le phénomène de sous-nutrition était en recul jusqu'en 2015, on constate depuis une inversion de la courbe. En effet, selon le dernier rapport annuel sur l'état de la sécurité alimentaire dans le monde, publié en juillet dernier par plusieurs agences des Nations Unies, dont la FAO et le Programme Mondial Alimentaire, plus de 820 millions de personnes étaient sous-alimentées en 2018, c'est-à-dire une personne sur neuf. C'est 20 millions de plus qu'en 2016, et surtout c'est un chiffre qui grimpe depuis 2015 alors qu'il était en recul. Jusque-là, de nouveau, la faim progresse. Alors pourquoi cette faim progresse ? Faut-il se résigner au fait que l'objectif faim zéro d'ici 2030 ne sera pas tenu ? Quel bilan peut-on faire des politiques internationales conduites ces dernières années ? Et d'ailleurs, l'essentiel du problème serait-il autre part dans le changement climatique, dans la multiplication des conflits ? Un certain nombre de questions sur lesquelles on va se pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité d'abord un géographe, Pierre Janin, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes un spécialiste des questions agricoles et alimentaires en Afrique subsaharienne en particulier. Vous êtes chargé de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Avec nous en duplex de Montpellier, Franck Galtier, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes vous chercheur en économie au CIRAD, qui est un centre de recherche agronomique pour le développement. On va évoquer évidemment ce dernier rapport annuel sur la faim, mais j'ai utilisé plusieurs termes là dans mon chapeau. J'ai parlé de faim, j'ai parlé d'insécurité alimentaire, j'ai parlé de sous-nutrition. C'est vrai qu'on ne sait plus forcément où est-ce qu'on, de quoi on parle quand on parle de tout ça. Est-ce qu'on peut définir, Pierre Janin, la faim et les critères par lesquels on établit justement ce phénomène-là?
C'est vrai que la faim présente des visages différents et pluriels. C'est toute la difficulté pour rentrer dans, autour de cette question et de ce défi numéro 2, réduire la faim. Et plusieurs manières de la mesurer et de la représenter. La
sensation. Alors, vous dites défi numéro 2 parce que vous faites référence aux objectifs.
Aux objectifs mondiaux du millénaire, comme processus d'engagement de l'action publique et de l'ensemble des acteurs.
On y reviendra.
Avec une vision donc de réduction de la faim, mesurée de manière très précise. Donc la faim recouvre différents visages. La première que tout le monde connaît, c'est cette sensation de manque exprimée au quotidien. Manque également parfois de protéines, c'est une autre manière de mesurer la faim. La faim peut être aussi mesurée par des éléments plus cachés d'un point de vue nutritionnel. Ça, c'est un des acquis plus récents en matière de carences nutritionnelles qui sont souvent invisibles. L'iode, vitamine A, etc. La faim peut aussi s'exprimer par le manque de moyens, si on veut revenir sur la question de la précarité alimentaire. Et enfin, dans des formes les plus extrêmes, la faim, lorsqu'elle est fatale en termes de devenir physiologique, va évidemment se réaliser sous forme de décès, évidemment.
Franck Galtier, justement, ces différents visages de la faim, peut-être a-t-on voulu du côté de la FAO les réunir sous un seul et même indicateur qu'on appelle l'insécurité alimentaire. Vous pouvez nous présenter un peu cet indicateur. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis en place? J'imagine c'est parce qu'on considérait que les précédents n'étaient pas complètement pertinents. Et surtout, qu'est-ce qu'il révèle, Franck Galtier, des déséquilibres alimentaires au niveau mondial?
Alors, les principaux indicateurs utilisés par la FAO, en fait, recouvrent la première dimension qu'a mentionné Pierre, c'est-à-dire celle des calories. Et du coup, l'insuffisance des calories consommées, qui est associée à cette sensation de faim qu'on peut éprouver. Et par contre, la faim cachée, c'est-à-dire les carences en nutriments, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe à mesurer. Et donc, la FAO et d'autres organisations produisent différents indicateurs, mais la plupart de ces indicateurs, en tout cas ceux qu'on peut renseigner dans tous les pays du monde et qui servent à ces statistiques que vous avez évoquées au début dans ces rapports annuels sur l'état de l'insécurité dans le monde, sont quand même essentiellement focalisés sur la question des calories. Et du coup, c'est la faim au sens strict, c'est-à-dire l'insuffisance calorique, dont on a observé qu'elle augmente depuis 4 ans, alors qu'elle était auparavant dans une tendance baissière.
On va regarder, évidemment, essayer de comprendre pourquoi, justement, ça remonte. Mais effectivement, ce que nous dit le dernier rapport sur l'insécurité alimentaire, c'est que cette faim, au sens de la sous-nutrition, elle concerne 700 millions de personnes, c'est-à-dire 9,2% de la population. Et les personnes impactées par la malnutrition, qui est plus générale, qui est donc cette alimentation soit modérée, soit qui implique des compromis par rapport à une nourriture de qualité, c'est 17,2% de la population, c'est donc 1,3 milliard de personnes. Pierre Janin, vous êtes géographe. La géographie de la sous-nutrition, où se trouvent ces personnes qui n'ont pas suffisamment à manger? Est-ce qu'on peut établir une sorte de géographie par continent, par région? Puis on regardera comment ça a évolué aussi. Pierre Janin.
Merci. Il y a deux continents qui apparaissent particulièrement touchés par ces enjeux et ces questions d'insécurité alimentaire. Malheureusement et de manière récurrente, l'Afrique subsaharienne. Et également, malgré l'ensemble des progrès qui ont pu être faits en termes d'alimentation et de lutte contre la malnutrition, on voit également l'Asie du Sud-Est et plus particulièrement le sous-continent indien qui émerge ou qui apparaît. Alors avec des différences en termes de poids démographique, évidemment la présence indienne est très forte. En termes de proportion par rapport à la population africaine, c'est ce continent qui reste également dominant en matière d'insécurité alimentaire.
Malheureusement très largement devant, si on regarde les prévalences finalement. Donc
prévalence, du point de vue de la malnutrition infantile, c'est vrai que tout le continent africain apparaît, en effet, sous une couleur orange ou rouge, selon le classement des cartographies faites par la FAO et le Programme Alimentaire Mondial.
52,3% pour l'Afrique, ensuite l'Amérique latine, 30,9%, puis vient l'Asie, 22,8%, et enfin l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc on voit qu'il y a évidemment d'énormes disparités entre les continents, les régions. Franck Galtier, vous évoquiez justement l'inversion de la courbe, cette fameuse dramatique inversion de la courbe, parce que pendant très longtemps, enfin en tout cas ces dernières 15-20 ans, les chiffres de la malnutrition, de la sous-nutrition étaient en baisse et depuis 2015, ça repart à la hausse. Comment ça se fait? Comment le comprendre, Franck Galtier?
Alors, en tout cas, c'est quelque chose qui a beaucoup étonné parce que ce qu'on observait beaucoup ces dernières années, c'était une tendance à la réduction de la faim au sens de cette insuffisance en calories consommées. Et parallèlement, on observait une augmentation de la surconsommation de calories, c'est-à-dire des phénomènes de surpoids et d'obésité. Et ça, dans toutes les régions du monde, y compris dans les pays en développement, et y compris depuis une période un peu plus récente, dans les campagnes des pays en développement, on observe une augmentation du surpoids et de l'obésité. Donc on avait l'impression qu'on avait deux tendances, qu'on avait la sous-nutrition en termes de calories qui était en train de diminuer et qui était appelée à disparaître, et par contre une augmentation du surpoids et de l'obésité. Et du coup, ce qui s'est produit à partir de 2015, où on a eu une inversion de la courbe, et donc le surpoids et l'obésité continuent à augmenter, mais par contre, l'insuffisance calorique qui auparavant baissait, a repris une tendance à la hausse. Et du coup, effectivement, ça a énormément surpris beaucoup de monde. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a l'impression que le surpoids et l'obésité, c'est le contraire de la faim. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a des liens assez subtils entre l'insuffisance calorique et le surpoids et l'obésité. On a par exemple observé que quand des jeunes enfants au cours de leur vie prénatale ou de leurs premières années de vie ont été en situation de sous-alimentation, ils ont tendance à avoir des problèmes d'obésité et de diabète à l'âge adulte. Mmh. Bon, c'est un peu une réaction physiologique du corps qui a été stressée et qui du coup s'habitue. Et de la même manière, sur l'autre dimension de la faim cachée qu'évoquait Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire les insuffisances en nutriments, on observe aussi souvent que des personnes qui vont être en surpoids ou en situation d'obésité vont avoir beaucoup de carences en nutriments. Mmh. Là, ça reflète une alimentation plutôt déséquilibrée.
Pierre Jeannin, quand on regarde le dernier rapport annuel sur l'insécurité alimentaire, on voit qu'il y a un certain nombre de facteurs aggravants. Alors, je l'ai dit de façon un peu générale, générique, il y a les conflits armés, évidemment, il y a le dérèglement climatique, et puis il y a un dernier facteur qu'on a introduit précisément dans ce dernier rapport, c'est la question du ralentissement économique, qui est mentionné pour la première fois dans ce rapport-là. Alors, évidemment, il y a un certain nombre de pays qui nous font penser qu'effectivement il se passe quelque chose en ce moment. Je pense par exemple au Venezuela, où là on a évidemment une crise économique, pas seulement politique également, mais qui est considérable et qui provoque de l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, on a 80% des foyers au Venezuela qui sont touchés par l'insécurité alimentaire. Mais est-ce que c'est seulement, par exemple, sur ce qui est du Venezuela, le fruit d'une crise économique, ou est-ce que c'est aussi le fruit d'un certain modèle d'approvisionnement qui serait particulièrement exposé, finalement, à ce risque-là?
Alors c'est vrai que le grand avantage de l'état de l'insécurité alimentaire dans le monde, fait par maintenant non seulement la FAO mais avec l'appui de l'UNICEF et du PAM, on va vers une meilleure coordination
des messages,
le programme d'alimentation mondiale. En effet, il a le grand avantage de remettre un focus sur la dimension économique des approvisionnements alimentaires à l'échelle nationale. C'est une dimension qui avait été un petit peu oubliée. Vous savez que chaque année, il y a un thème particulier qui est mis en exergue et il a l'avantage d'éclairer et de montrer les nouveaux paradigmes ou les nouvelles manières de penser la lutte contre la faim, après avoir parlé de crise prolongée ou de résilience également dans des précédents rapports. Celui-ci, il revient sur une dimension économique qui avait été mise en exergue, c'est vrai, il y a plus d'une dizaine d'années par la fameuse crise alimentaire mondiale. Et puis on avait un peu passé sous silence un certain nombre de points, peut-être en lien notamment avec la question des transitions climatiques et alimentaires et l'aggravation des conflits ou de l'instabilité climatique. Là, on voit bien toute la part et l'importance des institutions nationales et donc de l'État, du fait de son rôle à la fois nourricier et redistributeur dans nombre de pays.
Et là, on le voit en particulier sur le Venezuela.
Alors, on le voit en particulier sur le Venezuela. C'est en effet un pays en faillite, descente aux enfers, parfois, comme le nomment un certain nombre de journalistes ou de spécialistes. Là, on voit tout à fait comment un pays qui, après avoir été agro-exportateur, qui était quand même adossé à des ressources pétrolières importantes, ne parvient plus à maintenir cet effort redistributeur et se retrouve finalement dans une situation donc devoir nécessairement importer un certain nombre de ressources alimentaires.
Oui, c'est ça. Il y a aussi un modèle qui pose problème derrière, parce que cette rente pétrolière, elle a effectivement fait qu'on a complètement abandonné, en tout cas beaucoup abandonné, le secteur agricole, et donc aujourd'hui l'essentiel des denrées, elles sont importées, ce qui rend le pays particulièrement vulnérable.
Voilà, le rapport 2019 montre bien tout ce jeu entre dépendance aux importations et dépendance aux exportations comme ressources pour pouvoir s'approvisionner sur les marchés mondiaux.
Effectivement, sur ce phénomène, Franck Galthié, 54%, c'est ce que nous dit le rapport, 54% des pays où la sous-alimentation a augmenté sont des pays très dépendant des marchés internationaux de matières premières. On voit qu'il y a une corrélation assez directe entre la question de l'insécurité alimentaire et sa propension à justement dépendre des marchés internationaux. Franck Galthié, vous qui êtes économiste, c'est quelque chose que vous avez vu?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça joue un peu dans les deux sens. Il y a des pays qui sont dépendants des importations pour leur alimentation. Par exemple, c'est le cas de tous les pays d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient qui dépendent assez fortement des importations de blé. Et puis, il y a des pays qui sont dépendants des exportations pour les ressources en devise, pour les revenus de l'État. Par exemple, des pays qui vont beaucoup dépendre des exportations de café, de cacao, donc ou de minerais, de cuivre, etc. Et c'est vrai que la dépendance à un ou deux produits d'exportation comme ça est une source de vulnérabilité, parce que si le prix de ces produits connaît une une baisse pour les pays qui dépendent des exportations et ou une augmentation pour les pays qui dépendent des importations. Effectivement, ça peut mettre ces pays en assez grave difficulté. Et le dernier rapport sur l'état d'insécurité dans le monde en 2019 insiste beaucoup sur cette dépendance des pays à une ou deux matières premières comme source d'aggravation de la faim.
La monoculture, c'est un facteur de risque. Pierre Janin, pendant longtemps, la souveraineté alimentaire, c'était un enjeu absolument essentiel pour beaucoup de pays. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, cette question-là a été un peu reléguée au second plan? Et puis ensuite, on verra si, en la matière, il existe des contre-exemples, des pays qui, au contraire, effectivement, ont remis cet enjeu-là au cœur des enjeux, et avec quels résultats. Mais d'abord, est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement, cette question de la souveraineté alimentaire est peut-être moins importante qu'il y a 10-15 ans?
On a souvent l'habitude de distinguer ou d'opposer sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire, parce que les acteurs, les institutions et les manières de concevoir la lutte contre la faim sont un peu différents selon l'acception de chaque terme. C'est vrai que le côté sécurité, on voit mieux les actions de la part d'institutions internationales, de l'ensemble des acteurs de l'humanitaire, de la part de l'État. On va vers une lutte qui s'illustre en matière de progrès et d'objectifs finalement assez mesurables et finalisés. Puis de l'autre côté, on a plutôt des mouvances avec des communautés citoyennes, des mobilisations comme paradigme finalement alternatif, une autre manière de penser à la lutte contre la faim, dont on voit un ensemble de résultats à l'échelle locale, y compris en Europe et pas seulement en Amérique latine ou en Afrique, avec l'objectif de recréer une connexion, un lien entre systèmes productifs locaux et monde citadin. Il y a finalement l'idée qu'on va vers une agriculture qui soit plus favorable en termes de soutien aux petites paysanneries et moins peut-être ouverte et favorable aux marchés internationaux. Alors pendant longtemps on les opposait, mais moi je pense qu'on est vraiment dans le temps du politique en matière de traitement de l'insécurité alimentaire, avec la nécessité pour des institutions publiques de reprendre la main et de rejouer un rôle qu'elles avaient un peu oublié ou délaissé, ou qu'on les avait forcées à abandonner du fait du poids des marchés et des manières de s'approvisionner à l'échelle internationale directement à flux tendu sur les marchés.
Alors vous parlez des marchés, vous parlez de reprendre la main, il y a toujours des moments qui sont des moments propices justement pour reprendre la main et pour changer les choses, ce sont les moments de crise. Malheureusement, il y a 10 ans, il y en a une très importante, un peu plus de 10 ans maintenant, il y a cette crise financière de 2007 et puis elle va se répercuter, cette crise, sur l'agriculture, parce qu'il va y avoir, on va considérer que les matières premières agricoles sont des valeurs refuges, ce qui va provoquer, c'était en 2008, des révoltes de la faim un peu partout, souvenez-vous.
Regardez, c'est comme ça qu'ils sont obligés de travailler, de vendre leurs marchandises à même le sol. Les dirigeants nous magouillent, ils nous oppressent. Chaque jour, le riz augmente, chaque jour, les haricots augmentent, chaque jour, tout augmente.
Je ne travaille pas, je ne mange pas, personne ne s'occupe de moi. Mes 8 enfants sont morts. Regardez ce que je vends, quelques bouteilles. Hier soir, j'ai dormi sans manger, je n'ai personne pour me nourrir, ma maison est détruite.
Les gens n'ont pas d'argent, je ne vends rien, hélas. J'ai faim et je ne mange pas. Je me sens faible, je n'ai plus de force, je me sens anéanti.
Voilà, extrait de témoignage qui avait été diffusé sur France 24 et sur France 3 à l'époque, de l'Afrique subsaharienne aux Caraïbes, en l'occurrence Haïti. Pierre Janin, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être en quelques mots comment est-ce que finalement la crise financière s'était retrouvée à déstabiliser à ce point le marché des matières premières agricoles? Et puis, si, évidemment, est-ce qu'on a tiré la leçon de tout ça? On va commencer avec vous, Pierre Janin, et puis ensuite je ferai intervenir Franck Galthié. Pierre Janin.
On va commencer peut-être par Franck Galthié, qui est le spécialiste.
Je sais, mais j'ai une question très précise pour Franck Galthié. Alors, si vous me permettez, on va commencer par vous.
Alors, c'est vrai que c'était une crise, la crise alimentaire mondiale de 2007-2008, était une crise qui avait un visage tout à fait particulier par rapport à l'ensemble des crises qui lui ont précédé, qui étaient plus des crises de pénurie, des crises de rupture avec une dimension finalement très conjoncturelle. Là, on a un enchevêtrement et puis une globalisation à l'échelle mondiale des problèmes d'approvisionnement alimentaire avec un effet marqué du fait d'un certain nombre de spéculations en lien aussi avec une production qui était momentanément plus faible en termes de récolte céréales. Sur l'ensemble des marchés mondiaux. Et ce qui est très caractéristique de cette crise, c'est de voir que des pays qui n'avaient pas de problème d'approvisionnement alimentaire ont pu être touchés du fait d'un effet de contagion, notamment passage d'une spéculation sur le marché du riz à des marchés céréaliers, notamment en Afrique subsaharienne, par un effet de contagion qui n'a pas été perçu ni anticipé de la part des décideurs publics, ni des institutions internationales. C'est vraiment une crise qui n'avait pas été perçue, ni rendue visible, ni anticipée en termes de gestion et d'anticipation.
Et alors évidemment, on a bien sûr tiré les leçons de tout ça, Franck Galthié. Enfin, oui et non, parce que vous disiez dans une récente synthèse du CIRAD, Franck Galthié, qu'en réalité, il fallait s'attendre à ce qu'on aille vers une plus grande instabilité des prix alimentaires. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment se fait-il qu'on n'ait pas complètement tiré les leçons de cette crise?
Alors, ce qui s'est passé pendant la crise de 2008, d'abord, au-delà des causes de la crise, vraiment la grande nouveauté, ça a été qu'il y a eu une espèce de mondialisation des émeutes urbaines. Donc, il y a des émeutes qui se sont produites, donc qu'on a appelé des émeutes de la faim, qui sont produites dans une quarantaine de pays en développement. Et ça a vraiment été un phénomène mondialisé, c'est-à-dire que les gens voyaient à la télévision ou à la radio ou sur les réseaux sociaux qu'il y avait eu des émeutes urbaines dans d'autres pays, et ça leur donnait aussi à eux envie d'aller manifester dans leur pays. Et ça a vraiment électrisé la communauté internationale, qui du coup s'est mobilisée au plus haut niveau et a mis ces questions de sécurité alimentaire au plus haut dans l'agenda. Bon, alors est-ce que, du coup, 10 ans après, on en a vraiment tiré les leçons, et est-ce qu'on a pris des mesures pour faire que ça ne se reproduise pas? Alors je dirais que si on raisonne au niveau de la communauté internationale, il y a eu assez peu de choses concrètes qui ont été faites. Il y a eu une réforme des indicateurs, des dispositifs de gouvernance de la sécurité alimentaire. Par exemple, on a mis en place un groupe d'experts un peu équivalent au GIEC pour le changement climatique sur la sécurité alimentaire, qui s'appelle le HLPE, qui est hébergé à la FAO à Rome. Donc il y a des choses qui se sont faites plus en termes de gouvernance, etc. Mais en termes vraiment de politique au niveau international, il y a très peu de choses qui se sont faites.
Par contre, si on regarde pays... très précisément Franck Galthié, par exemple, il y avait eu beaucoup de critiques s'agissant de la question de la coordination internationale sur les stocks mondiaux de grains et de denrées. Qu'est-ce qu'on a fait sur ce point-là? Est-ce qu'on a avancé?
Alors, les débats qui ont eu lieu sur la crise 2008 pour comprendre d'où elle venait, et du coup ce qu'il fallait faire pour que ça ne se reproduise pas, il y a beaucoup de controverses sur ce qui a été les déclencheurs immédiats de la crise. Mais par contre, il y a un consensus assez large sur le fait que ce qui a permis la crise, c'est la faiblesse des stocks. La faiblesse des stocks mondiaux de produits alimentaires, notamment des stocks de céréales. Cette faiblesse des stocks, elle-même, elle s'explique par le fait qu'auparavant, on avait des politiques agricoles aux États-Unis, dans l'Union européenne, en Chine, qui généraient des surplus, des excédents. Alors ça faisait problème, ces excédents, parce que du coup, par exemple, l'Union européenne exportait ses excédents de manière subventionnée, ça faisait de la concurrence déloyale aux pays en développement. Parfois, on détruisait des stocks parce que bon, ça posait des problèmes aussi environnementaux, de surproduction, de surpollution. Donc il y avait des tas de problèmes avec ces politiques. Mais elles avaient un effet, c'était de générer en permanence un volume de stocks suffisant pour empêcher les pics de prix. Puisque quand on a un volume de stock suffisant, même s'il y a des mauvaises récoltes, et ben les stocks sont là pour compenser. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces politiques qui ont été réformées, petit à petit, elles se sont traduites par une baisse du niveau mondial des stocks. Et elles ont atteint une espèce de minimum historique en 2007-2008.
Franck Galthié, aujourd'hui on en est où sur cette question des stocks? Parce qu'on comprend bien que c'est de là d'où viennent les tensions, les niveaux de stocks aujourd'hui.
Les pays en développement, donc les pays qui ont été exposés en 2008, ont en fait perdu confiance dans les marchés internationaux. C'est-à-dire qu'en 2008, Non seulement les prix sur les marchés internationaux ont très fortement augmenté, ils ont doublé ou triplé selon les céréales et les qualités qu'on considère. Donc ça a été un choc très important, mais aussi les délais d'importation ont beaucoup augmenté. Et ça, c'était très important pour les pays qui avaient besoin de trouver des céréales pour importer et satisfaire les besoins de leur population et qui avaient du mal à en trouver et qui, du coup, devaient, des fois, prendre plusieurs mois pour importer ce que d'habitude, ils importaient en quelques semaines. Donc, les pays ont réagi en essayant de cette défiance vis-à-vis des marchés internationaux les a conduits à essayer d'avoir davantage de stocks chez eux. Donc, ça s'est traduit, certains pays ont augmenté la taille de leur stock public. Par exemple, le Bangladesh a triplé la taille de son stock public de riz. D'autres pays ont mis en place des politiques pour stimuler la production nationale. Donc ça passe souvent par la subvention des intrants. Et toutes ces politiques-là se traduisent en fait par... traduisent une défiance vis-à-vis des marchés internationaux et la volonté d'avoir plus de stocks au sein de leur pays pour moins dépendre des marchés internationaux.
Pardon, je vais vous poser une question bête. Franck Galthié, ça passe par la subvention des intrants. Comment se fait-il que la subvention des intrants provoque une augmentation des stocks? Parce que c'est pas évident a priori, c'est pas parce que vous achetez des intrants que vous allez faire monter les niveaux de stocks là, je comprends pas.
L'idée en fait c'est d'augmenter les niveaux de la production.
Mais c'est pas en achetant des engrais, c'est en stockant davantage, on est bien d'accord?
Oui, oui, bien, mais étant donné que le niveau de la production va être plus élevé. Si, je vais prendre un exemple
concret. Oui, mais je veux dire, il faut un moment avoir un outil qui force les producteurs à ne pas vendre et à créer du stock, non?
Alors, si les stocks ne sont pas détenus par les producteurs, ils peuvent être détenus par d'autres, par les commerçants par exemple.
Ou bien mais alors, c'est le cas, il y a des dispositifs de ce genre-là.
En fait, les acteurs privés, que ce soit les producteurs ou les commerçants, ils vont stocker s'ils anticipent qu'ils peuvent faire un gain. En fait, il y a deux types de stockage. Il y a le stockage au sein de la campagne agricole, c'est-à-dire on stocke toute l'année pour tenir jusqu'à l'arrivée des nouvelles récoltes un an plus tard. Ça, c'est le stockage saisonnier. Mais ici, le stockage qui est le plus important, c'est le stockage pluriannuel, c'est-à-dire les stocks qu'on conserve au moment où les nouvelles récoltes arrivent, les stocks qu'on conserve de l'année précédente. Et c'est très risqué de détenir des stocks comme ça, parce qu'on ne sait pas si les nouvelles récoltes, elles vont être abondantes, elles vont être faibles. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que quand on perçoit que la nouvelle récolte va être mauvaise, donc il y a des tas de manières où on perçoit que la mauvaise récolte va être mauvaise, parce qu'au moment où on avait besoin de pluie, il n'y a pas eu de pluie, ou parce qu'il y a eu des attaques de criquets, ou parce qu'au moment des récoltes, il y a eu des inondations qui ont généré des problèmes. Donc on a des tas d'indices que les nouvelles récoltes seront mauvaises. Et du coup, dans ces cas-là, effectivement, les acteurs privés, que ce soit des producteurs, des organisations de producteurs ou des commerçants, peuvent avoir intérêt à stocker, à garder des stocks pour l'année suivante.
Alors, je voudrais faire réagir peut-être Pierre Janin sur cette question des stocks en particulier, qui est évidemment éminemment importante. D'abord, elle est importante pour les questions de régulation qu'on évoquait tout à l'heure, parce qu'on voit bien que les fluctuations des prix des matières premières peuvent générer des catastrophes après sur le terrain. Pierre Janin, est-ce que dans le cas de l'Afrique subsaharienne, on a tiré les leçons de tout ça et effectivement, on a aujourd'hui des niveaux de stock un peu meilleurs que ce qu'on avait il y a 10 ans? Est-ce qu'on a compris qu'effectivement, il y avait urgence à mettre de côté afin d'éviter ce type de crise? L'Afrique subsaharienne, ça avait été vraiment l'un des pôles très chauds, si je puis dire, malheureusement, dans ces révoltes de 2008.
Autour de la question du stockage, une des grandes difficultés, c'est est-ce qu'on parle d'un stockage sur le papier ou d'un stockage effectif? Parce qu'il y a, vous savez, dans nombre de situations de pays en crise, on a toujours le discours ou le document, le texte programmatique pour indiquer que finalement on fait tout bien, comme il faut, en fonction de l'agenda international, en fonction des directives. Ça, il y a une capacité à mettre sur le papier qui est en effet équivalente, quel que soit le niveau de pays. Parfois de manière assez contrastée par rapport à des problèmes réels. Donc, en termes de stocks, les stocks physiques sont structurellement souvent inférieurs au stock global. On peut distinguer un stock national de sécurité, un stock d'intervention qui est un stock physique qui est souvent réduit à quelques dizaines de milliers de tonnes et qui permet de décaisser et d'intervenir de manière immédiate en situation d'urgence. Tout le problème, c'est la capacité à mobiliser financièrement, en cas de besoin, et du capital pour répondre à une situation de crise alimentaire. Donc, parfois, le stock financier ou la capacité à créer du stock physique est assez réduite parce que il y a des urgences financières dans des pays qui sont en but à de nombreux problèmes. Donc on a un peu tendance à mobiliser cette ressource financière pour faire autre chose, quel que soit le niveau d'insécurité.
Pierre Janin, depuis des mois maintenant, on voit à l'échelle mondiale une guerre commerciale qui s'étend. On voit un Donald Trump extrêmement offensif à l'égard de la Chine, mais pas seulement, aussi avec ses partenaires. On observe un peu partout l'ouverture d'une nouvelle ère, celle du repli des économies. Aujourd'hui, on peut parler de protectionnisme. C'est plus du tout un gros mot comme ça pouvait l'être à l'époque où le libre-échangisme était roi. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la lutte contre la faim? Est-ce que cette forme de démondialisation, alors j'utilise des guillemets, mais c'est un terme qui parfois, on a entendu dans la bouche de certains économistes, est-ce que la baisse, en tout cas des échanges commerciaux mondiaux, c'est une bonne nouvelle pour cette lutte contre la faim?
Vous voyez, on retrouve ce que je disais, le temps du politique en matière de traitement de la faim. Et donc l'émergence, la réémergence d'un nouveau sens en matière de souveraineté alimentaire, peut-être différente de celui dont on parlait, comme étant une manière différente de lutter contre la faim avec finalement un prisme plus sur les paysanneries et les arènes locales de confrontation. Là, on reprend le terme de souveraineté alimentaire, mais à une échelle plutôt nationale. Et en termes de discours, on va retrouver plutôt des gouvernants qui parlent de souveraineté alimentaire, mais dans un sens, avec une compréhension très différente du terme originel depuis 1996.
C'est-à-dire?
Promu par Via Campesina. Eh bien, ça sera la souveraineté alimentaire, mais plutôt l'indépendance alimentaire à l'échelle nationale, qui va favoriser, pourquoi pas, des politiques nationales de protection, ou un repli, et donc on va gérer ses clientèles, en termes peut-être de population locale. Et donc, on est dans le temps où les inégalités alimentaires et les insatisfactions alimentaires telles qu'elles se sont exprimées à l'occasion des fameuses émeutes de la faim font que peut-être des gouvernants vont privilégier leur clientèle, leur paysannerie, leurs demandeurs urbains, pour le seul fait que ce sont des demandes locales qui pourront s'exprimer politiquement.
Franck Galtier, je voudrais vous entendre sur ce point, ce temps de la démondialisation, je mets encore une fois des guillemets parce que c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas ce repli vers les économies nationales, est-ce que c'est une bonne nouvelle dans cette bataille contre l'insécurité alimentaire?
Alors une bonne nouvelle, je sais pas, mais ce qui est certain en tout cas, c'est que la crise de 2008 a conduit les gouvernements, notamment des pays qui dépendaient des importations alimentaires, à essayer d'en dépendre moins. Mais en même temps, on peut se demander si ces efforts-là à moyen terme vont être payants, c'est-à-dire que à peu près toutes les simulations montrent que, étant donné la croissance démographique en Afrique, étant donné les contraintes de ressources qui pèsent sur la production dans ces pays, le déficit alimentaire de l'Afrique est appelé à s'accroître de manière assez considérable dans les prochaines décennies. Et donc, quelle que soit la volonté politique des gouvernements et les politiques, par exemple, les politiques de soutien à la production que je mentionnais tout à l'heure, à moyen terme, certaines régions du monde, et notamment l'Afrique subsaharienne, vont dépendre de plus en plus des marchés internationaux.
Et alors, justement, vous parliez de démographie, c'est une question centrale qu'on se pose très régulièrement. Quand on regarde un petit peu les projections, on a l'idée que d'ici 2050, on aura à peu près 10 milliards de personnes sur Terre. Est-ce que, Franck Galtier, on peut nourrir l'ensemble de la planète? Et est-ce que, pour ce faire, il faudra rassembler peut-être des conditions qui ne sont pas encore aujourd'hui en place, Franck Galtier?
Alors bon, moi je travaille pas directement sur ces questions, mais j'ai des collègues qui effectivement font ça, font des modèles, des espèces de simulations dans plusieurs décennies. Est-ce qu'on pourra nourrir toute l'humanité? Ou plus exactement, comment il faudra s'y prendre pour arriver à nourrir toute l'humanité? Donc il y a beaucoup de variables qui comptent. Une variable très importante, c'est la consommation de viande et de produits animaux. Donc actuellement, c'est une consommation qui augmente beaucoup dans les pays émergents, du fait de l'enrichissement de la population. Et on estime qu'en moyenne, pour produire une calorie animale, il faut 7 calories végétales. C'est-à-dire que plus on consomme des produits animaux, plus on pèse finalement sur les ressources de la planète. Et du coup, un des gros enjeux, c'est celui-là. Est-ce que la consommation de viande va diminuer dans les pays qui en consomment déjà beaucoup, voire déjà trop, comme notre pays? Et est-ce qu'on peut arriver à trouver une certaine forme d'équilibre à ce niveau-là? Une deuxième variable qui compte beaucoup, c'est les modèles de production. Donc actuellement, l'agriculture mondiale est quand même dominée par des modèles de production type révolution verte, avec beaucoup d'utilisation d'intrants chimiques, de mécanisation. Et ça, c'est des modèles de production qui sont pas durables à moyen terme, du fait des niveaux de pollution très importants qu'ils génèrent, des sols, de l'eau, et aussi des aliments qu'on consomme. Et aussi du fait que ça pompe des ressources. Donc il y a des régions où on commence à manquer d'eau. On parle du pic des phosphates qui sont les produits utilisés pour fabriquer les engrais. Donc c'est un modèle qui est pas durable à moyen terme. Donc en jouant sur un peu toutes ces variables, on établit différents scénarios qui sont plus ou moins optimistes ou plus ou moins pessimistes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans l'avenir, on aura besoin de changer de manière assez radicale nos modèles de production et nos modèles de consommation.
Mais est-ce qu'on peut faire les deux en même temps, Pierre Janin? Parce que on l'a compris, il va falloir évidemment qu'on nourrisse de plus en plus de bouches, mais en plus, il va falloir glisser progressivement vers un modèle d'agriculture plus durable, disons-le comme ça. Sauf que si on respecte mieux l'environnement, l'agriculture, elle s'avère moins productive que l'agriculture traditionnelle, en tout cas l'agriculture industrielle. Est-ce qu'on peut mener les deux de front, Pierre Janin, c'est-à-dire la montée en puissance démographique et puis le défi environnemental? Est-ce que les capacités nourricières de l'agriculture biologique, appelons-la comme ça, sont suffisantes?
Alors, je ne suis pas un spécialiste.
Non, mais vous connaissez les travaux et les modèles qu'on propose.
Bon, a priori, tel qu'on voit les choses, les solutions techniques ou technologiques fonctionnent, que ce soit la permaculture, l'agroécologie, l'agroforesterie. Il y a des leviers de productivité importants, à condition d'avoir des politiques territorialisées ou particulières selon les contextes. Il faut vraiment faire quelque chose, plus du coût humain que des politiques diffusées à l'échelle internationale et appliquées sans discernement avec finalement une même manière de penser et de construire les politiques. Il faut peut-être sortir des cadres agricoles et de lutte contre l'insécurité alimentaire avec finalement les mêmes termes qui se déclinent d'un pays à l'autre. Là, je pense qu'il faut aller vers quelque chose de beaucoup plus différencié en lien avec des aspirations, des attentes, avec des potentialités agricoles et avec des difficultés. Ça, c'est tout le travail des gouvernants qui doivent repenser finalement de manière très précise ce qui est bien et également élargir de manière très importante l'horizon en matière de programmation et en matière de compréhension de la sécurité alimentaire pour intégrer à la fois des aspects de prévention et d'être très en amont. Et puis toute la difficulté, c'est évidemment de penser les interactions entre les phénomènes et entre tout l'ensemble des décisions qui vont amener progressivement à parler plutôt de sécurisation alimentaire que de sécurité alimentaire, au sens où on ne doit pas atteindre un objectif. Toute la difficulté, c'est l'équilibre et créer une certaine durée dans l'action en matière non seulement d'efficacité, mais de fonctionnement des systèmes alimentaires.
Je vais encore vous poser une question, Pierre Janin. À mon avis, vous n'allez pas beaucoup l'apprécier, mais je vais vous la poser quand même. Compte tenu évidemment de ces évolutions, compte tenu de la dégradation aussi évidemment des écosystèmes, sous l'effet notamment du dérèglement climatique, on se dit qu'il va falloir peut-être faire appel pour nourrir tout le monde, justement, aux techniques, aux nouvelles technologies. Compte tenu de tout ça, est-ce qu'on va pouvoir se passer des OGM?
C'est un vieux débat.
Au-delà de la question éthique, morale, etc., est-ce qu'on va pouvoir, si on veut nourrir tout le monde, se passer des OGM?
Alors, je suis assez pragmatique, même si je ne suis pas spécialiste de la question, notamment des OGM. On y avait déjà répondu, il y a en 2006, à l'occasion d'un petit ouvrage, L'Afrique des idées reçues. On avait montré comment, dans des périodes de crise, évidemment, tous les porteurs et ceux qui défendent l'intérêt des OGM peuvent à nouveau requalifier leur discours et remettre en avant la nécessité pour traiter des crises répétées, récurrentes et intenses, du besoin d'avoir des OGM pour un ensemble de produits. Je pense qu'il faut différencier les OGM en fonction de type de filière. Il y a des OGM peut-être dans le champ alimentaire ou pas alimentaire. Donc, je pense qu'il faut prendre en compte l'ensemble des éléments et ce qu'on appelle parfois les aménités économiques ou environnementales. générale, c'est-à-dire de l'ensemble des effets, positifs ou négatifs, pour prendre une décision.
Ça ne répond pas vraiment à ma question, mais si ça dépend, parce ça veut dire qu'on ne peut pas complètement s'en passer, c'est comme ça que je l'interprète.
Une réponse un peu normande.
Et si c'est selon, ça veut dire qu'on ne peut pas complètement s'en passer.
C'est votre avis. Mon opinion était plutôt à une action mesurée, mesurable et finalement nuancée, et de sortir un peu des anathèmes en matière de mobilisation. Toute la question, et c'est là où les OGM finalement pèsent le plus et on peut les critiquer, c'est que la seule dimension sur laquelle les porteurs ou les promoteurs des OGM n'ont pas de réponse, c'est en matière de finalement de brevetabilité du vivant. Pour des sociétés paysannes pauvres, dépendre des OGM est évidemment accroître la dépendance financière et économique des petits producteurs. C'est le seul point sur lequel il n'y a pas de réponse. Et l'ensemble des débats et des discours en matière de promotion des OGM n'apporte pas de réponse. C'est cette dimension économique.
Alors, il n'y a pas de raison. Hein. Je vais aussi soumettre Franck Galtier à cette question gênante. Franck Galtier, est-ce qu'on peut se passer des OGM si évidemment notre objectif est de nourrir tout le monde? Que nous dit l'économiste?
Alors, moi, déjà, je ne suis pas du tout spécialiste
justement.
De ça, mais en tout cas, ce qui est certain quand même, c'est que la recherche agronomique, pour l'instant, a très peu exploré les voies alternatives que Pierre mentionnait tout à l'heure, l'agroécologie, l'agriculture biologique, la permaculture. Et encore au jour d'aujourd'hui, même si on parle beaucoup d'agriculture durable et toutes ces choses-là, le pourcentage des crédits à la recherche qui part vers ces formes d'agriculteurs-là, est négligeable par rapport à aux crédits qui vont à l'agriculture dite conventionnelle, c'est-à-dire une agriculture de la chimie. Alors sur les OGM, je suis vraiment pas du tout spécialiste de ça.
Non mais justement, ça tombe bien parce que quand on a des spécialistes, en général, on a d'abord des débats extrêmement vifs et c'est tout parfois difficile justement d'en sortir quelque chose. Précisément, ça m'intéresse de surcroît.
Ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'ici, l'amélioration variétale qui s'est faite dans le cadre des révolutions vertes allait de pair avec l'agriculture de la chimie. C'est-à-dire qu'on créait des variétés qui répondaient bien aux engrais. Si, dans l'avenir, il pourrait y avoir une autre utilisation des OGM, ou cette fois, ce soit pour aller vers des agricultures moins polluantes et moins consommatrices de ressources. Au-delà des OGM, d'autres technologies qui peuvent être intéressantes, c'est les technologies basées sur l'information. Par exemple, avoir des types de capteurs qui vont permettre de mieux doser l'eau quand on irrigue des champs ou des parcelles, et de cette manière d'être plus économe en eau. Donc il y a des technologies qui vont aller vers le sens de l'économie de ressources et de la réduction des pollutions. Donc on pourrait imaginer que ça s'applique aussi aux OGM, mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste. C'est-à-dire cette fois d'avoir des OGM qui permettent, par exemple, de mieux répondre à des sols pauvres en nutriments, plutôt que d'avoir des OGM qui répondent mieux à des engrais qu'on sera obligé de mettre dans les sols.
En tout cas, ce que j'entends, c'est que vous n'écartez pas complètement le scénario. On est avec vous, Franck Galtier, et vous, Pierre Jeannin, dans cette série consacrée à l'alimentation. Se nourrir, vieux problème, nouveau défi, éradiquer la faim, mission impossible. On va parler tout de suite de la série, parce que les chocs climatiques et les conflits ont été les premières causes des crises alimentaires dans le monde en 2019. C'est ce que nous dit ce dernier rapport de l'ONU sur la question. Et de ce point de vue, la série souffre d'une double peine. D'abord parce que elle est évidemment touchée par un conflit qui dure depuis 2011, mais qu'en plus elle a été touchée l'année dernière par une sécheresse qui a fait massivement chuter les productions agricoles, notamment de blé, qui ont été au plus bas depuis 30 ans. On va retrouver Hakim Kaldi, qui est à Beyrouth, qui est membre de MSF. Hakim Kaldi, pardon, qui suit l'action de MSF en Syrie. Depuis 2011, Hakim Kaldi, MSF a mené plusieurs opérations sur le théâtre syrien, avec évidemment cette immense difficulté qui est que le régime de Bachar el-Assad n'a eu de cesse de bloquer toute aide humanitaire à destination des zones rebelles, avec un parrain russe qui a systématiquement lui aussi bloqué les choses au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que vous diriez que dans le cas syrien, il y a vraiment eu une utilisation intentionnelle pensée de la famine comme arme de guerre, et quelles en auraient été peut-être les formes les plus dramatiquement spectaculaire auquel vous avez été, vous, confronté, Hakim Kaldi?
Alors, ce qu'on a observé tout au long du conflit syrien, c'est que le gouvernement syrien, il a mis en place des stratégies militaires qui consistaient à assiéger certaines zones dans une stratégie de affamer jusqu'à obtenir la soumission des populations qui étaient assiégées. On en a conclu que finalement, l'aide en Syrie, elle a été contrôlée par le gouvernement syrien. Donc sans son feu vert, il n'y avait pas d'intervention possible. Cette aide, elle a été discriminée, donc Damas choisissant les destinataires de l'aide, elle a été aussi disproportionnée. Il y a un rapport de Syrian Campaign qui a été sorti, qui est paru en 2016, qui disait que 88% de l'aide a été déversée en zone gouvernementale et seulement 12% dans les zones tenues par l'opposition, sachant que les zones tenues par l'opposition étaient les zones où il y avait le plus de besoins. Et finalement, cette aide, elle a aussi été limitée. Damas imposant des restrictions au contenu des convois humanitaires. Donc il y avait un retrait quasi systématique de certains médicaments, notamment les anesthésiants, et une partie des nourritures.
Cette utilisation évidemment de la famine comme arme de guerre, on l'a vu du côté par exemple de Madaya, on l'avait vu aussi du côté de la Ruta, donc évidemment ça a été malheureusement depuis 2011 quelque chose qu'on a vu à des fréquences régulières. Si on regarde l'actualité à Kinkaldi, il se trouve que le mois dernier Ankara a lancé une offensive militaire dans le nord-est de la Syrie, obligeant les forces kurdes à se retirer des zones occupées par l'armée turque. Or c'est une zone qui est très importante sur les questions alimentaires parce que c'est une zone qui est considérée comme le grenier à blé du pays. Est-ce que derrière l'offensive militaire turque, on a aussi une bataille peut-être plus feutrée, mais quand même très importante pour la question de l'accès au blé? Est-ce que le régime de Damas a l'ambition de s'accaparer cette ressource vitale?
Donc, comme vous l'avez mentionné, cette zone était un peu le grenier de la Syrie, mais il faut signaler qu'avant l'offensive turque du mois dernier, il y a eu toute une campagne qui a commencé en 2018, qui a continué en 2019, où il y avait des activités criminelles qui consistaient à brûler les champs de blé. Ça s'est passé, on l'a observé en Syrie, mais on l'a observé aussi en Irak. Certaines de ces campagnes ont été revendiquées par l'État islamique, mais il y a certains champs qui ont été brûlés et non revendiqués par l'État islamique.
Et donc quoi? Ça veut dire que peut-être c'est le régime syrien, le régime de Damas, qui serait derrière ces incendies?
Moi, je ne peux pas dire qui est derrière.
En tout cas, c'est une possibilité.
Toujours est-il que cette stratégie, elle vise à limiter et voire diminuer les ressources des populations qui vivent sur ces zones-là. Ouais. Et donc à les rendre non vivables.
Hakim Kaldi, est-ce que les Kurdes sont prêts à vendre leur blé aujourd'hui au régime syrien?
Alors, moi, je ne vais pas parler des Kurdes en général, parce que c'est trop générique. Je vais parler du PYD, donc le parti politique qui a administré cette région, et notamment les forces démocratiques syriennes, donc qui sont un mix de populations locales arabes et kurdes syriennes. Alors, il y a eu des tractations au niveau des ventes de blé, mais les principales tractations financières, elles se font autour des ventes de pétrole, parce que les SDF, aujourd'hui, contrôlent les principaux puits de pétrole de Deir ez-Zor. Ils n'ont pas la capacité technique pour raffiner ce pétrole, et donc l'essentiel de ce pétrole était vendu au gouvernement de Damas.
En tout cas, ce qui se semble aujourd'hui là se jouer, c'est qu'effectivement le régime de Damas est en train de chercher à acheter un certain nombre de production de blé. Alors les autorités kurdes sont assez inquiètes parce que les conséquences pour les populations locales pourraient être assez catastrophiques, d'autant que pour les paysans kurdes, et on peut le comprendre, leur intérêt premier est de vendre leur blé au plus offrant, et de ce point de vue-là, le régime de Damas se montre, une fois n'est pas coutume, particulièrement généreux. Hakim Kaldi, de façon un peu plus générale, est-ce que les ONG peuvent aujourd'hui intervenir dans ce nord-est syrien? Est-ce que MSF a un accès à des opérations en cours sur cette zone-là, où c'est aujourd'hui totalement impossible?
Alors, nous, on est intervenu, MSF, depuis 2013, dans le nord-est syrien. On a négocié depuis 2013 notre accès avec les acteurs qui contrôlaient de façon effective ce territoire, donc à savoir le PYD et après, à partir de fin 2015, les forces démocratiques syriennes. Avec l'offensive militaire turque, il y a une redistribution de ce contrôle territorial et aujourd'hui, il nous faut renégocier notre accès, donc d'un côté avec les autorités turques et de l'autre, pour l'essentiel du territoire dans le nord-est syrien, avec le gouvernement de Damas maintenant.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des négociations, en tout cas vous parlez avec le régime syrien pour avoir un accès à ce nord-est syrien?
Alors, de façon générale, Médecins Sans Frontières, en zone de conflit, on parle avec tous les acteurs qui sont présents sur les terrains où on intervient. Donc aujourd'hui, on est en train d'essayer de négocier notre accès avec le gouvernement de Damas, ou comme on le fait dans n'importe quel autre conflit, quand un acteur contrôle de façon effective un territoire.
Oui, mais c'est important parce que, comme on le fait à chaque fois, dites-vous, il se trouve que dans le cas syrien, précisément, les ONG internationales, de façon générale, sont évidemment assez frileuses, et pour le moins, à négocier avec le régime de Damas. Pardon. Il y a évidemment un dilemme qui est colossal. Vous dites, nous discutons avec le régime de Damas.
Alors, je vais être encore plus clair. Depuis 2011, Médecins sans frontières n'a cessé de négocier avec Damas pour intervenir dans les zones sous son contrôle. Mmh. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2019, on continue à négocier un accès avec le gouvernement de Damas pour intervenir dans le nord-est syrien.
Alors il se trouve, Hakim Galdi, et ce sera peut-être ma dernière question, qu'aujourd'hui les ONG sont obligées de se retirer, de cesser leur activité dans cette zone du nord-est syrien suite à l'offensive de l'armée turque. Aujourd'hui, la majorité des ONG internationales se retirent. Le personnel de la région va du côté de l'Irak et en particulier dans la région kurde d'Irak, essentiellement à Mossoul, d'où est piloter l'essentiel des opérations. Est-ce que de ce côté-là, précisément, au Kurdistan irakien, on est en train de se préparer à une catastrophe humanitaire ? Est-ce qu'on se prépare à l'accueil de réfugiés kurdes de Syrie ?
Il y a eu toute une préparation pour accueillir les premières vagues de réfugiés syriens qui ont traversé la frontière en octobre suite à l'offensive militaire. Mais ce qu'on est en train d'observer là, cette semaine notamment, c'est un retour des réfugiés qui était en Irak, qui retourne en Syrie, mais aussi déplacés, qui avaient quitté la zone frontalière pour se réfugier plus au sud. Donc il y a aussi un retour de ces déplacés vers les zones du nord-est syrien.
Est-ce qu'on se prépare à l'accueil de ces gens ?
Ben en fait, il y a eu toute une préparation du côté irakien, mais ça n'a pas été d'afflux massifs. Maintenant, le problème pour les organisations humanitaires internationales, c'est de retrouver un accès dans le nord-est syrien afin d'assurer la provision de services aux populations locales, donc l'eau, la santé et nourriture principalement.
Merci beaucoup Hakim Galdi d'avoir été avec nous depuis Beyrouth, membre de MSF et coordinateur des projets de Médecins sans frontières dans cette région du Moyen-Orient.
If I cleaned up my mouth, oh, may I stay all night with you?
Et un grand merci à nos deux invités, Pierre Janin, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes géographe, auteur notamment de l'apaisement alimentaire entre ressources et pouvoirs. Non, l'approvisionnement alimentaire, pardon, entre ressources et pouvoirs, qui était dans la revue
internationale des études du développement, éditions de la Sorbonne.
On mettra ça, évidemment, en lien, en référence sur le site de Culture Monde. Un grand merci également à Franck Galtier qui est avec nous en duplex de Montpellier. Je remercie d'ailleurs les techniciens qui ont permis de faire la liaison jusqu'à nous. On poursuivra bien sûr notre semaine consacrée à l'alimentation demain, mais pour l'heure 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et alors le 40e anniversaire de la chute du mur de Berlin, ce dernier week-end, n'a pas été célébré avec le faste qu'on avait connu lors du 10e ou du 20e anniversaire. Que s'est-il passé Brice ?
Entre-temps, les Allemands et nous tous Européens, nous avons perdu un certain nombre de nos illusions. Nous ne croyons plus à la fin de l'histoire telle que la concevait Francis Fukuyama à l'époque. Souvenez-vous, il n'y a plus désormais, prétendait ce célèbre essayiste américain, d'alternative au modèle de la démocratie libérale telle qu'elle s'est historiquement développée en Europe et en Amérique du Nord. La démocratie représentative, le multipartisme sont devenus l'idéal de toute l'humanité. La liberté des échanges, commerciaux, humains, intellectuels, est à présent l'aspiration commune de tous les peuples. Après avoir vaincu les armes à la main, les défis des régimes totalitaires fascistes, l'Occident a également cessé de devoir relever celui des régimes totalitaires communistes. C'est la fin de l'histoire. L'humanité est réconciliée, il n'y a plus qu'une seule civilisation humaine. La liberté a gagné. Eh bien, nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait d'une illusion. Il existe en effet plusieurs alternatives politiques à la démocratie libérale. L'autoritarisme méritocratique, qui a permis à la Chine de devenir la deuxième puissance du monde, est compatible, oui, avec un régime d'économie mixte, mi-privée, mi-étatique, et avec une économie de marché politiquement encadrée. La démocratie illibérale à la Poutine a permis à une puissance en voie de déclassement de retrouver un rang international au prix, eh oui, de l'abandon des libertés publiques. Et elle séduit certaines opinions publiques, en Europe même, en leur promettant, je cite, de reprendre le contrôle des frontières et de bloquer les flux migratoires. La théocratie islamiste a échoué, certes, en Égypte et dans beaucoup d'autres pays, mais elle a été battue militairement en Irak et en Syrie, mais elle conserve de beaux restes dans l'Iran chiite. Mais ce n'est pas parce que le système politique dont nous pouvons être fiers parce qu'il nous fait libres, relativement prospères et solidaires à des challengers qu'il nous faut sombrer à présent dans le pessimisme ni surtout dans le révisionnisme historique. En effet, sous prétexte que le cœur est moins à la fête à Berlin ces jours-ci, certains en profitent pour répandre des contre-vérités et transformer radicalement le sens de ce qui s'est produit il y a 30 ans.
Et puis, premier mythe du coup à déconstruire, hein, Brice, le mur de Berlin n'est pas tombé dans la nuit du 9 au 10 novembre 69.
Non, voilà ce qui s'est passé. Lors d'une conférence de presse donnée par le porte-parole du comité central du Parti communiste de RDA, Günther Schabowski, un journaliste lui a demandé quand les Berlinois de l'Est seraient autorisés à se rendre à l'Est. Et la réponse a été « autant que je sache, immédiatement ». En fait, il n'en savait rien. Mais dans la soirée, des dizaines de milliers de Berlinois de l'Est se sont en effet présentés au point de contrôle entre les deux zones, exigeant, oui, le passage. Dans la confusion qui régnait alors dans les hautes sphères du parti, les soldats débordés ont fini par céder. Il ne faut pas oublier qu'en cette année 1989, on risquait encore sa vie à vouloir quitter le secteur oriental de Berlin pour passer à l'ouest. Une rangée, une double rangée de murs de béton de 165 km de long surmontés de barbelés isolait Berlin-Ouest du reste de la RDA. Entre cette double muraille se trouvait un no man's land miné de 50 mètres de large, équipé de mitrailleuses à tir automatique et de miradors. Y circulaient des patrouilles armées. Elles étaient destinées à empêcher les Allemands de l'Est de fuir le paradis socialiste. Car oui, ce mur-là n'avait pas pour vocation d'empêcher les gens d'entrer afin d'accéder à une vie meilleure comme ceux d'aujourd'hui auxquels il est fort improprement comparé. Il était destiné à les empêcher de partir. Le paradis communiste était une prison. Avant sa construction, dans la nuit du 13 août 1961, plus de 2 millions d'Allemands de l'Est sur 18 avaient abandonné leur maison, leur emploi et leurs amis pour fuir à l'Ouest par Berlin. Une espèce de Venezuela emmurée, si vous voulez. Le 6 février 1989, encore 89, oui, un jeune homme de 20 ans, Chris Geffroy, a été abattu par les soldats de l'Est en tentant de franchir le mur, et il était la 136e victime des gardes du mur. On comprend que ce régime d'oppression et de terreur, contrairement à une légende répandue à présent par certains, ne fait certainement pas l'objet de regrets pour l'immense majorité de ceux qui l'ont subi. L'été précédant la chute du mur, 100 000 Allemands de l'Est avaient à nouveau fui en passant par la Hongrie qui, durant l'été 89 et avec l'accord de Gorbatchev, avait ouvert sa frontière avec l'Autriche. Le 18 mars 1990 eurent lieu les premières élections libres de l'histoire de la RDA. Les communistes réformés du PSD y obtinrent encore 16% des voix. Le SPD, 22%. La CDU et ses alliés, 47%. Et le 23 août de cette même année 90, cette assemblée représentative, la Volkskammer, vota à une forte majorité, 294 contre 62, la demande d'adhésion de la RDA à la RFA en vertu de l'article 23 de la loi fondamentale de ce pays. Il est donc mensonger de parler d'annexion.
Et ben voilà, merci Brice, on remet les choses au clair. On se retrouve demain, cher Brice.